Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cet Actuel et lui. Bonjour les filles.
Et bonjour
salut
Guillaume.
Guillaume, salut, salut Anne-Marie, bonjour à tous.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler des moches.
Ah, ben voilà.
C'est dit.
Suivez-nous, suivez le regard.
Oh non. Oh non. J'ai jamais dit ça.
Ça commence bien aujourd'hui.
Ça promet surtout.
Et toi, Guillaume, tu vas nous parler de quoi?
Ben moi, je vais vous faire une petite revue de presse de l'actu télé. Et toi, Caroline?
Alors moi, je vais vous le faire un peu sous forme de quiz. J'ai posé mon paquet de Morland spécial sur la table avec mon martini un peu secoué et puis mon Walter PPK aussi sur la table, voilà, de quoi je vais vous parler ce soir.
Bon, ben voilà, on découvrira ça dans la troisième partie.
Oh ben, les fans ont trouvé.
Oui, tout à fait.
C'est sûr.
Tout à fait, tout à fait. Il sera même question d'agent secret avant.
Oui.
Avant ta partie. Allez, c'est parti, un petit jingle et on se retrouve après.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bon, mais Anne-Marie, vive les moches, c'est ça?
C'est ça, tu as tout compris. Abat le culte de la perfection, non mais ça suffit, même si la société nous pousse à être toujours plus performants, toujours plus beaux, toujours plus lisses, il faut savoir dire stop.
Stop.
On a le droit d'avoir des boutons sur la figure, d'avoir des traits durs, bref, d'être imparfait ou tout simplement normal, pourquoi pas, même si parfois cela joue en notre défaveur, et ça on va le voir dans cette chronique. Et puis il n'y a pas que les êtres humains qui sont moches, et ça peut nous rassurer.
Il y a même une petite gamme de biscuits qui vient de naître, qui s'appelle ainsi.
Et effectivement, on en parlera tout à l'heure, Caroline.
C'est sûr.
Bon, alors, c'est quoi être moche, Anne-Marie?
Donc, d'après la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales...
Oh, mon Dieu.
On tape dans le level hein, aujourd'hui.
Pas de Wikipédia. Ça suffit, hein, pas Wikipédia aussi. Eh bien, qui est desservi par son aspect physique, notamment par son visage. À l'inverse, beau signifie qui cause une vive impression capable de susciter l'admiration en raison de ses qualités supérieures dépassant la norme ou la moyenne. Mais vous le savez, la beauté ou la mocheté sont des notions bien suggestives, subjectives, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Suggestives. Ça va être chaud.
Bon. Enfin, ce sont des notions subjectives. Et puis, comme disait Jean-Marie Poiré dans Le Père Noël est une ordure, Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Donc, on voit toute la nuance.
Ouais. On voit.
On la sent, en tout cas.
Bon, et alors, incroyable mais vrai, il existe un site de rencontres pour moches.
Oui. Alors, j'aurais préféré vous affirmer le contraire, mais je suis bien tombée sur le site qu'on pourrait appeler celui de la dernière chance ou le musée des horreurs. Sur www.rencontre-moche.bi, vous allez surfer sur un site belge interdit aux moins de 18 ans. Donc, je préviens quand même nos auditeurs, faites attention, surtout si vous avez des enfants. Un site qui va peut-être sûrement même vous choquer. En tout cas, moi, j'ai été choquée. Des femmes, alors souvent grassouillettes, mais ça, c'est pas grave, on a le droit. Hein. Mais, eh bien, dans un âge certain, posent en petite tenue, voire en très, très petite tenue.
Dans des tenues du tout, Anne-Marie.
Voilà, dans des positions, et cette fois-ci, très suggestives.
Ah, c'est ça, le voilà.
Voilà, c'était là. J'étais tellement choquée, en fait, que... et donc, elles font tout ça, évidemment, pour tenter d'aguicher un mal. Alors, j'ai bien dit tenter, parce qu'après, je ne sais pas quel est le résultat. D'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Mais voilà, c'est pas un site qui est très beau, en tout cas. Et sous chaque photo, les femmes écrivent quelques phrases sur elles, évidemment, pour se décrire. Et voici un commentaire que j'ai trouvé à la fois drôle et pathétique, donc c'est pour ça que j'ai voulu quand même vous en parler. Donc je cite cette dame. « Bonsoir, je suis une femme moche de tournée en Belgique et pour la première fois je teste ce site. J'ai beaucoup de mal à trouver un homme. » Je coupe la phrase pour nos auditeurs. Et pourtant, je ne suis pas une femme difficile. C'est affreux.
Okay. Il n'y a que des femmes ?
Donc, il y a des femmes. Il y en a, selon le site, hein, selon les chiffres du site, il y en a 67 344 qui se sont inscrites et 57 824 hommes. Donc oui, il y a des hommes. Mais justement, cette chose qui est assez amusante et ridicule, hein, après ça dépend, c'est qu'en bas de page, tout en bas de la page, à côté des femmes moches, on trouve des photos d'hommes qui, eux, par contre, sont très mignons, avec abdos saillants, lunettes de soleil pour frimer, sourire ravageur. Bref, le beau et la bête côte à côte, comme si l'adjectif moche ne pouvait seulement qualifier que la femme.
Il n'y a pas de mec moche sur le site.
Sur cette page, parce que le problème, c'est, enfin le problème qui n'en est pas un bien sûr, mais il fallait que je m'inscrive pour après aller voir toutes les femmes. Bon, moi, c'était pas mon cas, donc j'ai regardé juste la page, si tu veux, la première page sur laquelle donc on tombe quand on clique sur www.rencontre-moche.bi, et donc tu as une dizaine de femmes avec leurs petits commentaires, et donc en bas tu as des photos avec celles des hommes. Mais voilà, moi, comme je ne suis pas inscrite, je n'ai pas pu regarder plus en profondeur.
Tu n'es pas allée jusqu'à t'inscrire.
Non ? Oh bah merci !
Non mais
ça veut dire quoi,
mais
ça ?
Mais t'as un rôle de journaliste, non, d'enquêtrice, Anne-Marie.
Mais bien sûr, c'est l'enquête en immersion. T'aurais pu te grimer pour
on
faire une photo.
On t'aurait trouvé une photo de moche, il n'y a pas de souci.
Oui, mais bon, enfin voilà. Bon, si vous avez envie de vous faire peur,
d'accord,
allez sur ce site.
On ira voir.
Voilà. Mais je vous ai prévenu. Hein.
D'accord. Mais finalement, la société nous sanctionne-t-elle si on est moche ?
Selon des études menées et parfois contestées, les employeurs accordent un salaire plus élevé aux salariés physiquement attrayants. Si la beauté récompense, la laideur pénalise. La Tribune expliquait dans un article en février 2013 que les hommes plus beaux que la moyenne percevaient un salaire plus élevé que les autres. Voici ce que l'on peut lire dans cet article. Alors je cite « Avoir un physique d'Apollon a un impact non négligeable sur la fiche de paye. » C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une étude australienne. Concrètement, il apparaît que les hommes plus beaux que la moyenne gagnent alors 80 000 dollars, ce qui fait 62 000 euros par an, contre 49 000 dollars, ce qui donne 38 000 euros pour ceux qui se situent en dessous de cette moyenne. Ce qui est juste énorme. Si vous êtes très beau, vous gagnez presque deux fois plus qu'un très moche. En d'autres termes, les hommes les plus attractifs gagnent donc 22% de plus que la moyenne et les moins beaux gagnent 26% de moins. Ce n'est pas la première fois qu'une étude fait le lien entre la beauté et le salaire, ou plus largement la réussite professionnelle, puisqu'en 2001, un chercheur américain avait publié une étude donc appelée « La beauté paye, pourquoi les gens beaux ont plus de succès ?». Il montrait ainsi qu'un bel homme gagnait en moyenne 17% de plus qu'un homme au physique peu avantageux, et les jolies femmes, elles, gagneraient 13% de plus que leurs homologues moins belles. Je pense qu'après, on n'a pas de statistiques, mais par exemple sur un CV où on met une photo... ça on le dit pas, mais effectivement je pense qu'une femme jolie a peut-être plus de chances d'être retenue qu'une femme moche, et pareil pour un homme aussi quoi.
Ouais, je pense qu'il faut pas en faire trop non plus.
Comment ça?
Bah qu'après ça peut être ça peut aussi être mal perçu
d'être beau.
Non mais de trouver trois guicheurs sur la photo.
Ah non, mais moi je te parle pas d'être guicheur ou pas, je te dis juste une personne belle a peut-être plus de chances d'être sélectionnée qu'un candidat pas très beau. Après, on n'a pas de statistiques, mais faut pas être hypocrite non plus. Quoi.
Bah non, on voit bien qui passe à la télé quand même.
Par exemple, à la télévision, ils sont tous beaux.
Bon, ils ne sont pas tous. bon.
Il n'y a quand même pas énormément de moches.
Oui, certes.
Donne-moi un exemple, sinon, de quelqu'un très moche à la télévision. Tu vas pas en trouver beaucoup, hein.
Bah, de très moche, non. Mais il y a des gens qui ont un physique tout à fait classique.
Comme
Mais on va pas parler des gens comme ceux
qui aiment. Pourquoi tu regardes Caroline?
Mais si, comme ceux qui aiment Caroline, Frédéric Lopez.
Bah Frédéric Lopez, il est drôlement mignon.
Mais bien sûr.
Mais justement, c'est eux qui sont à la télé.
Mais si tu prends Reichmann,
David
Pujadas, Lagaffe, c'est pas des sexes symboles, quoi. Enfin, je sais pas.
Oui, c'est vrai, mais il y en a pas énormément. Surtout que là, on parle d'hommes. Et les femmes vont en trouver des moches, par exemple.
Arlette Chabot.
J'espère qu'elle ne nous écoute pas.
J'espère.
Bon, il y a...
Après, ce n'est pas une présentatrice, mais bon.
Il n'y a que les humains qui sont moches, Anne-Marie ?
Heureusement pas, évidemment. Les chiens aussi. Alors bon, je parle des chiens comme j'aurais peut-être pu parler aussi d'autres animaux. Mais en tout cas, les chiens, puisque vous le savez, chaque année, des passionnés de canidés se réunissent en Californie afin d'élire le chien le plus moche du monde. Et en 2015, à l'occasion de la 27e édition, c'est la chienne Quasimodo. Alors, femelle pitbull croisée berger hollandais qui a remporté le concours. Née avec une colonne vertébrale très courte qui lui donne des airs de hyène, l'animal incarne parfaitement la laideur selon un juge. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Non. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'elle a vraiment une colonne vertébrale très courte avec des pattes qui sont plutôt longues. Donc, effectivement, c'est assez risible. Mais rassurez-vous, en tout cas, ce concours ne cherche pas à se moquer de ces chiens, tous plus laids les uns que les autres, mais à promouvoir l'adoption des animaux, quel que soit leur physique. La chienne Quasimodo, par exemple, a été abandonnée puis adoptée par un vétérinaire qui lui a donné une nouvelle chance. L'organisatrice du concours explique ceci. « Nous célébrons l'esprit et les imperfections qui rendent ces chiens adorables et adoptables. Donc, on peut être moche, mais hyper mignon.
Mmh. »
Bon, bah, pour nous aussi, hein, ça doit être le cas aussi.
Bah oui. Et alors, donc on le disait tout à l'heure, la mocheté se consomme, Anne-Marie.
La mocheté se consomme. Alors, près de 30% des fruits et légumes produits en France ne parviennent jamais dans nos assiettes. Et parmi ces 30%, près de 10% partent à la benne sans état d'âme, trop petits, trop tachetés, pas assez colorés, trop différents, quoi. Mais depuis 2014, des labels tentent de réhabiliter ces fruits et légumes marginalisés sur les rayonnages des enseignes de la grande distribution en les vendant au rabais, c'est souvent moins 30%. Et désormais, on ne fait plus la promotion des fruits et légumes moches seulement le 16 octobre, à savoir durant la journée contre le gaspillage alimentaire, mais bien toute l'année. Un label, Quoi ma gueule, a même été créé par le collectif Les Gueules Cassées. Et voici ce qui est écrit sur leur blog. Je cite, hein, « Chaque année, 40% de la production mondiale de nourriture ne voit pas un estomac humain. En France, 17 millions de tonnes de produits parfaitement comestibles ne sont pas consommées. Des milliers de kilos de pommes, d'abricots déformés, de cerises à peine fendues, de tomates biscornues sont jetés par les producteurs qui n'ont pas de débouchés valorisants pour ces produits et légumes, pour ces fruits et légumes moins jolis et pourtant exquis. Tous ces produits sont excellents et ont les mêmes qualités que les autres et nous estimons vraiment dommage qu'ils soient systématiquement écartés pour des défauts mineurs qu'ils n'altèrent en rien leur qualité gustative. Nous avons décidé, hein, nous dit le collectif Les Gueules Cassées, nous avons décidé de nous mobiliser pour faire en sorte qu'ils puissent être à nouveau proposés à la vente et que nous puissions profiter de leur saveur et de leur goût en évitant un gaspillage qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Nous avons décidé d'en faire une marque à part entière, la toute première marque anti-gaspi, proposant des produits aussi bons et moins chers. Alors, Les Gueules Cassées bouleversent petit à petit les habitudes des producteurs, des distributeurs, tels que, alors bon... Comme ça, je vais citer quelques grandes marques, hein, Monoprix, Cora, Auchan, mais aussi les habitudes des clients. Les Gueules Cassées ont conquis 1500 points de vente et surtout ont inventé une nouvelle manière de consommer pour lutter contre le gaspillage. Et comme le succès est au rendez-vous, le groupe de grande distribution Intermarché a décidé de poursuivre l'expérience en l'élargissant finalement aux biscuits, aux formes atypiques ou bien qui ont été cassés lors de leur fabrication ou de leur transport. Et on a pu voir ainsi du 3 au 8 novembre dernier, mais principalement dans la région parisienne, des biscuits moches qui ont été donc vendus, toujours pareil, 30% moins chers que les autres en raison donc de défauts esthétiques. Tout le monde y gagne dans cette opération, on gaspille moins, donc c'est évidemment mieux pour la planète. Le consommateur achète des bons produits et moins cher, donc c'est bon pour son porte-monnaie. Et puis, la grande surface réalise des économies en commercialisant des produits promis à la base à la poubelle quand même. Ces opérations devraient se multiplier sur tout le territoire. Le potentiel de ce marché est considérable. Dans chaque secteur de l'alimentaire, les producteurs se fixent des cahiers des charges. Et si la taille ou la forme ne respecte pas la norme fixée, le produit est jeté, même s'il est mangeable. Les gueules cassées le déplorent. Je les cite, chaque secteur a ses règles. Dans un bœuf, tout l'arrière est souvent jeté car il est jugé un peu dur ou un peu moins bon, mais il se mange quand même. La saucisse de Morteau, et c'est là où c'est vraiment incroyable, si elle fait 1 cm de moins que prévu par le cahier des charges, elle est jetée, alors qu'elle se mange. C'est juste qu'elle fait un petit centimètre en moins. Le confiseur, oui.
1 cm, ça peut compter.
Ça dépend ce qu'on fait de sa saucisse de Morteau.
Oui, t'en fais quoi d'ailleurs, Guillaume?
Je n'ai rien dit.
Moi non plus.
Non, je te pose la question, t'en fais quoi?
Je la mange.
Bon. Et si tu as une très grosse faim, 1 cm, ça compte.
C'est ça. Non, mais après, c'est aussi des, par rapport à la protection des consommateurs et au fait que, qu'à un moment, tu as un produit qui a un certain poids, une certaine, ça peut aussi s'entendre pour partie.
Mais effectivement, tu payes quelque chose, c'est au poids, par exemple. Donc,
oui, après, tu peux aussi imaginer que certaines préparations puissent avoir un poids défini, mais ça n'empêche pas de vendre les autres sous un autre nom, à la limite.
C'est surtout un cahier des charges, Guillaume, qui est trop exigeant, c'est tout. C'est que...
Non, mais tu pourrais très bien avoir une saucisse de Morteau avec une longueur définie, et puis avoir une saucisse lambda que tu vends à côté et qui n'est pas estampillée du concept saucisse de Morteau, qui a peut-être une longueur parce qu'elle a été définie pour telle ou telle raison, et le produit pourrait tout à fait aussi se vendre à côté.
Il faut en parler aux grandes distributions. Mais oui, tu as raison, même si elle perdrait de toute façon de la valeur.
C'est sûr.
Mais au moins, elle ne serait pas jetée. C'est sûr. Et c'est pareil pour le confiseur. S'il voit une rayure sur son chocolat, il la jette. Idem pour les tartes, les pizzas ou certains fromages qui ne seraient pas parfaitement ronds. On en jette des quantités phénoménales. Et il n'y a pas qu'en France que le sujet sensibilise. Les Gueules Cassées, qui se présentent comme la première marque anti-gaspillage du monde, a su recevoir des appels de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, d'Angleterre, du Canada, du Japon, du Brésil, de Suède, des Pays-Bas, de la République tchèque, de Grèce et même des États-Unis, comme quoi les moches ont de l'avenir devant eux ou devant elles. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, surtout en ce moment.
Bon, et donc, pour cette fin de chronique, tu nous proposes d'écouter une chanson...
Quelque moche de beau.
Avec peut-être chantée par des chanteurs et des chanteuses moches.
Non, même pas. Non, mais justement, je me suis dit, on a parlé trop de moches, et donc...
C'est d'actualité, les Gueules Cassées. On va dire, nos auditeurs vont jouer la transparence, puisqu'on enregistre ce 11 novembre. C'était très d'actu, Anne-Marie, bravo.
C'est vrai. Et à un moment donné, je voulais en parler, puis après, je me suis dit, c'était pas forcément dans ma chronique, mais bon, ouais, j'y avais pensé. Je vais vous proposer une chanson belle, enfin, en tout cas, je la trouve belle. Donc, c'est Nos Vies Parallèles, chantée par Florent Pagny et Angoun.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et nous voici de retour dans Actuel et lui pour cette deuxième partie. Alors Guillaume, tu as passé un petit peu de temps devant ton petit écran. On sait que c'est quelque chose que tu aimes bien faire.
Et oui, tout à fait.
Enfin,
voilà.
Que nous aimons. Hein.
Oui.
Oh, oui, 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 soyons honnêtes.
Oui, je sais qu'en plus vous allez réagir sur certains des sujets. Donc,
ah bon
oui, je les ai choisis un peu aussi pour vous. Voilà, donc effectivement, différentes actus des médias dans cette petite chronique d'aujourd'hui.
Alors côté service public, on pourrait voir disparaître Candice Renoir ou Plus belle la vie, Guillaume, ben ouais. Dis-nous.
Ça a été le grand sujet dans le monde des médias. Alors peut-être que vous n'avez pas trop vu pour vous, mais ça a fait bruisser tout le monde des médias ces dernières semaines. Ça a commencé le 29 octobre avec TF1 qui a annoncé à la surprise générale être entré en négociation exclusive pour prendre une participation majoritaire dans Newen. Alors Newen, vous vous demandez ce que c'est, ben, c'est la société de production qui abrite des sociétés telles France, Kappa, BioWare, 17 Juin Média. Alors là aussi, ça ne vous dit peut-être pas forcément grand-chose. Mais donc, effectivement, ce groupe produit de nombreuses fictions comme Plus belle la vie, Braco, Candice Renoir, Le sang de la vigne, Nina, ou encore Versailles, la nouvelle super production de Canal+. Mais c'est aussi le Journal de la Santé, c'est aussi Les Maternelles. Donc beaucoup, beaucoup de programmes de France Télévisions. Et c'est une annonce qui a mis en colère Delphine Arnault, la nouvelle présidente de France Télévisions. Et elle a dit que, elle rappelait que plus de 2/3 du chiffre d'affaires de Newen était réalisé par le service public et qu'elle contestait que les investissements donc, de France Télévisions, principalement financés par la contribution des citoyens, par la redevance, puissent aujourd'hui faire l'objet d'une telle transaction commerciale, puisqu'évidemment, c'est des histoires de gros sous qui sont derrière. Ce sont les idées, les savoir-faire et les compétences développées en partenariat avec le service public qui constitueraient l'actif essentiel de cette opération entre notre principal fournisseur et l'un de nos principaux concurrents. Voilà, donc ça a été un peu chaud, hein, c'est énervé.
Et à suivre,
hein.
Donc.
Alors, c'est pas tout à fait fini parce que donc, ce qui s'est passé ensuite, le 4 novembre, c'est l'Union syndicale de la production audiovisuelle qui a sorti de. Donc, c'est, on va dire, le syndicat professionnel des sociétés de production audiovisuelle qui a viré simplement toutes les filiales du groupe Newen de ce syndicat. Contestant cette opération, en disant qu'elle était en totale contradiction avec les valeurs défendues donc, par cette union, et notamment la loyauté envers ses partenaires. Donc voilà, ça a quand même un peu foutu le bazar. Ça a d'autant plus foutu le bazar que l'USPA, hein, donc l'Union syndicale de la production audiovisuelle, a aussi interpellé la ministre de la Culture qui, elle, se félicitait plutôt dans Le Monde d'un beau projet s'inscrivant dans une volonté de faire émerger des champions français de l'audiovisuel. Mais c'est vrai que malgré tout, on oublie peut-être parfois un peu aussi la dimension de création qui est présente dans ces sociétés, dans les différents programmes qui ont été évoqués. Et il y a quand même les équipes d'un certain nombre d'émissions, et notamment les émissions de flux, hein, c'est-à-dire Les Maternelles, le Journal de la Santé, etc., qui sont exprimées pour contester aussi cette opération. Et alors, dernier épisode en date de ce petit feuilleton, c'est mardi, Nonce Paolini qui déclare « Nous garantissons à Newen l'indépendance, la pérennité et le développement ». Alors, on peut peut-être croire effectivement le PDG, le PDG de TF1, mais bon, malgré tout, c'est quand même. Alors, il annonce que Newen aura une autonomie importante dans son fonctionnement au quotidien. La société restera dirigée par Fabrice Larue, qui sera directement rattaché au président de TF1, puis donc non Spaolini, puis qui va être remplacé
va être
prochainement,
remplacé, hein, ouais.
Et pas aux équipes qui gèrent les antennes et les programmes des chaînes du groupe. Mais ça n'a pas calmé Delphine Ernotte, hein, puisque la présidente de France Télévisions a redéclaré « La question de la protection des investissements publics n'est pas résolue, ce qui pose problème de la pérennité de notre relation avec Newen. Pour France Télévisions, le problème reste donc entier », a fait savoir le groupe avant-hier soir. Dans ce cadre-là. Donc effectivement, tous ces programmes peuvent être un petit peu en suspens. En tous les cas, tous les projets qui étaient imaginés de développement avec cette société de production sont pour l'instant suspendus. Donc effectivement, ça serait
un joli coup de TF1. Quoi.
Ça serait un joli coup de TF1, mais c'est vrai qu'il y a des marques, hein, comme on le disait, hein, les maternelles, Candice Renoir, Plus belle la vie évidemment, hein, qui sont qui sont vraiment des moments forts de la grille de France Télévisions et qui sont là un petit peu menacés, rachetés par leurs concurrents. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier dans cette organisation.
Bon, c'est les coulisses de la télé, mais...
Et oui, ça contribue à ce qu'on peut voir dedans.
Alors, quelqu'un a quitté la Tour Eiffel et tu vas nous en donner des nouvelles.
Oui, Guillaume. Voilà, Alessandra Sublet.
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler.
Elle a disparu des écrans avec son talk show un soir à la Tour Eiffel. Hein,
qui n'avait pas marché.
Qui a été un flop et puis qui avait finalement à la fin plus aucun lien avec la Tour Eiffel donc, et qui coûtait très cher pour la production. Et donc, elle fait son retour le 4 décembre en direct sur TF1, puisqu'elle a changé de chaîne avec le Mercato, et elle sera de retour donc en direct pour un prime time événementiel à l'occasion des 30 ans du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il y a eu beaucoup de bruit sur quel.
On perd Anne-Marie, hein, Guillaume, oui, pour prévenir nos auditeurs.
Mais c'est pas grave, dans pas longtemps, j'ai un truc pour la réveiller.
Ah bon donc... ouais, elle a eu une après-midi très physique et elle a un petit peu de mal, Anne-Marie.
Donc voilà, c'est vrai qu'on se demandait quelle émission elle allait incarner sur TF1, et donc c'est vraiment ce premier coup qu'elle va porter. Donc 30 ans d'histoire musicale française avec Johnny, Patrick Bruel, Zazie, Serge Lama, Kenji Girac, Louane, Maître Gims, M. Pokora. Bon, voilà, c'est une émission. Alors, elle déclare, c'est pour ce type d'émission événementielle qui fait d'elle la première chaîne européenne que j'ai aussi signée sur TF1. Bon, il suffisait de regarder Taratata il y a trois semaines où il y avait à peu près les mêmes et c'était sur France 2. Et voilà, c'était aussi.
Mais là, c'est un rendez-vous ponctuel du coup.
C'est un rendez-vous
ponctuel. On lui a rien proposé d'autre ?
Alors, il semblerait, il y a toujours cette chose-là qui se dit, qu'elle pourrait revenir dans l'émission Star à domicile. Une émission qui était diffusée entre 2001 et 2004, présentée par Flavie Flamand, hein, à l'époque, et qui permettait de rencontrer une star et un de ses admirateurs.
Rappelez-vous, on en avait parlé au mois de juin. TF1 a dans son giron tout un tas d'animatrices plutôt jolies, Anne-Marie, pour faire écho à ta chronique. Qu'ils n'utilisent pas, mais dont ils ont privé leurs adversaires, on va dire, c'est finalement.
Voilà, et alors, on parlait donc d'Alessandra Sublet et d'un soir à la Tour Eiffel, mais il y a un nouveau venu.
La case
est revenue avec un nouveau talk show, de deuxième partie de soirée qui s'appelle Folie Passagère, avec Frédéric Lopez, le petit chouchou de Caroline, mais qui lui a pas tapé dans l'œil. Hein.
J'ai pas été emballé par le premier numéro, je dois avouer.
Donc enfin, c'est par l'émission que t'as pas été emballé.
Oui.
Soyons clairs, oui. Frédéric reste toujours mignon.
Ah bah oui.
Oui. Bon, donc
c'est vrai que je l'aime dans les choses un peu intimes, mais c'est loin d'être le cas dans ce talk show.
Voilà, alors c'est effectivement très très différent de ce qu'il a pu proposer autrement. On retrouve toujours le personnage très feel good, tout à fait l'ambiance propice aux confidences, etc. Mais mais alors avec un rythme auquel on n'est absolument pas habitué avec Frédéric Lopez pour une émission. C'est-à-dire que la parenthèse inattendue, c'était l'éloge de la lenteur, finalement. C'est-à-dire qu'on prenait du temps, on restait posé en train de cuisiner, machin, pendant 20 minutes, et au final, on racontait sa vie. Là, on est dans un truc où toutes les 2 ou 3 minutes, il se passe quelque chose, quitte à interrompre ce qui se passait précédemment. Et c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu, qui moi m'a pas forcément déplu, mais c'est vrai que ça peut un peu décontenancer par rapport à l'habitude qu'on peut avoir. Voilà,
moi ça m'a donné l'impression de du coup un peu décousu. J'ai été perturbée par le fait que Frédéric Lopez est loin d'être seul dans cette émission. Hein. Il est accompagné de tous ses chroniqueurs.
Tous ses anciens chroniqueurs de France Inter.
Et ça m'a perturbée parce que ce sont des voix que je connais par la radio et des gens que j'ai pas forcément envie de voir à la télé. Voilà. Enfin. Et ça m'a gêné, cette...
Voilà, donc on peut en nommer quelques-uns. On retrouve Pierre-Emmanuel Barré, hein, qui vient de la nouvelle édition. Nicole Ferroni...
L'excellente Nicole Ferroni, pour le coup, là, oui, elle tient vraiment son épingle du jeu, mais comme toujours.
Tout à fait. Elle est excellente aussi dans la matinale de France Inter. Et dans Si tu écoutes, j'annule tout. Daniel Morin, donc là aussi de France Inter. Aurore Delplace, Thomas Nucci, Gigi McFarlane, David Sall, Fadili Camara, Noman Hosni, Sonny Chan. Et aussi l'écrivain Alexandre Jardin, qui est un peu paumé au milieu de tout ça. Mais bon, c'est vrai que bon, je pense que ça va s'affiner aussi dans les semaines qui viennent.
Il y a un petit reproche peut-être aussi, c'est les 2 premiers invités n'étaient pas hyper charismatiques. Enfin moi,
on peut peut-être les nommer.
Je suis vraiment pas allée pour eux quoi. Enfin,
Caroline, c'était qui?
Alors au point que je vais avoir du mal à les nommer. Non, il y avait la comédienne qui zozote.
Isabelle Mergo.
Isabelle Mergo
et le footballeur
chauve
des champions du monde de 98.
Apartheid.
Non.
voilà, c'est pour vous dire.
Le Bœuf.
Oui, Franck Le Bœuf.
Oh, voilà. Putain, je suis bonne en foot.
Il n'y avait pas de quiz prévu dans cette chronique, mais finalement.
C'est vrai que bon.
Alors, dans le deuxième numéro qu'on n'a pas vu, puisqu'on enregistre avant qu'il ait lieu, ça risque d'être chaud un peu. Hein.
Oui, je pense. Ouais.
Parce qu'on a Renaud Lavillenie, donc
le
perchiste, et qui c'est le deuxième? J'ai perdu.
Oh, on n'est pas bon.
Alzheimer vous guette.
Hein. Ah non, mais c'est fou. Enfin bon. Enfin voilà. Donc, allez voir, découvrez et on verra ce que
et
ça donne.
Et n'hésitez pas à nous faire part de
voilà.
Vos commentaires.
Après, le décor est superbe. Moi, je trouve que c'est une ambiance qui est assez sympa. Il y a vraiment... Enfin, on retrouve... C'était aussi le cas de la parenthèse inattendue parce que cette maison n'existait pas. Enfin, oui, elle a été complètement construite pour la télévision. Il faut quand même se le dire aussi. Mais c'est vrai que... Voilà,
tu me casses toutes mes illusions.
Ah bah oui, non, mais ça...
voilà. Alors, il devrait bientôt revenir puisque quand même, c'est aussi là-dedans qu'on l'aime. On en discutait avec Anne-Marie. Il devrait bientôt revenir avec un terrain connu...
Oui, tout à fait.
Ça sera alors. J'ai oublié avec qui, mais.
Bon, en tout cas, ça sera pas avec.
Je rêve tellement qu'il m'appelle pour partir avec lui en terre inconnue ou connue d'ailleurs.
Connue. Même si c'est en Lozère, moi ça me
va. Oui.
Mais on peut noter quand même que ça fait plutôt un très bon score pour la première soirée, hein, cette folie passagère. On est à 12% du public, là où au mieux. Le soir à la Tour Eiffel était à 9%. Donc, c'est...
Après, c'est la nouveauté aussi. Il faut peut-être voir. Ça fait...
On va voir ce que ça donne.
On va voir ce soir.
Bah, ce soir, donc hier pour vous qui nous écoutez. Voilà. On continue avec la télé-réalité.
Et oui, quoi de neuf alors, Guillaume, de ce côté-là?
Alors, le quoi de neuf, c'est hier, le début du... Enfin, avant-hier, hein, pour vous qui nous écoutez toujours, le début du tournage de la saison 5 de The Voice. Voilà, parce que donc, alors que ça fait quelques jours que The Voice Kids s'est terminé, et que d'ailleurs la prochaine saison de The Voice Kids est déjà tournée, il y aura, enfin, les choses commencent pour The Voice saison 5. Donc voilà, les enregistrements ont commencé à la Plaine Saint-Denis avec les auditions à l'aveugle, donc avec la première des 6 sessions d'enregistrement.
Et donc dans les sièges rouges, qui nous annonces-tu?
Et bien voilà, donc côté coach, Florent Pagny reste, mais Mika Rampil également, hein, ouais. Donc voilà. Pour la troisième saison, Rampil donc pour la troisième saison, Mika, Zazie qui arrivait l'an dernier est toujours
fait
là.
C'est sa deuxième. Ouais.
Et Jennifer n'est pas là et donc est remplacée par Garou qui revient. Donc
fait là, neuf avec du vieux.
Ouais, trois par
Garou,
contre.
Garou, celui qui a des.
Oui, voilà.
Des beaux yeux.
C'est ça.
Deux.
Mais pour autant, ça fait quand même trois hommes.
Trois mecs, alors, Zazie, voilà, fort à faire. Enfin bon, elle s'en était très bien sortie pour cette première saison.
Tout à fait. Donc, il faut noter qu'il y aura un nouveau plateau aussi.
On note.
Voilà, je vous le dis. Et alors, a priori, le journaliste de Pure Média qui était sur place trouve que ça fonctionne bien, mais que finalement, il y a peu de nouveautés, parce que voilà, Garou, on le connaît déjà dans l'exercice. Alors simplement, ils n'ont pas été encore entre Zazie et Garou.
On sait parce qu'il était parti fâché et mal payé, ce qu'on en sait un peu plus là-dessus.
Je pense qu'il a dû trouver un arrangement sur cette question pour revenir.
Je m'en fais pas.
Ah non, mais moi non plus.
Mais voilà, la difficulté va être, une fois de plus, après la saison dernière qui avait été difficile en termes d'audience, de réussir à faire revenir les gens vers cette émission, ce qui n'est pas forcément tout à fait gagné. Alors, autre actualité de la télé-réalité, alors ça c'est spécialement pour Anne-Marie, c'est le retour de L'amour est dans le pré, mais avec là une nouvelle version, puisque c'est une seconde chance qui est proposée, donc à partir du 16 novembre.
Au moche, donc. Oh pardon, oui.
C'est ça.
C'est vrai que c'est...
Mais c'est la loose quand même. Voilà. Parce que tu fais une émission, tu trouves pas, bon.
Voilà, donc...
seconde chance, si ça se trouve, il y aura bientôt la troisième chance.
C'est ça. 6 agriculteurs emblématiques des 10 saisons de l'émission. C'est 6 cœurs à prendre, donc n'ayant pas réussi à trouver l'amour du premier coup, ils espèrent y parvenir cette année. Alors, on retrouvera l'éleveuse
allez-y,
de...
ils vont avoir faim.
L'éleveuse... On va pas y aller, justement.
L'éleveuse de brebis Marilyn, Christophe et Philippe, tous deux éleveurs de vaches allaitantes dans le Limousin, mais aussi Jeanne, éleveuse de brebis et de vaches, et les deux Philippe supplémentaires, l'ancien parisien de la saison 5 qui avait tout quitté pour reprendre la ferme de ses grands-parents dans le Limousin, et le viticulteur de la saison 8. Voilà, donc ça sera un petit peu différent du format habituel, parce que là, ils ouvrent les lettres chez eux, enfin voilà, c'est un peu plus, comme on les connaît, un peu plus...
ils n'ont pas mis les mêmes moyens, disons.
Voilà, c'est un peu différent là-dedans. Et alors, à noter que ce sont les 10 ans également de L'amour est dans le pré, cette année, et donc il y aura un grand prime pour fêter les 10 ans de ce programme, comme il se doit.
Et tu nous parles de James Blunt à cette occasion ou pas ?
Alors non, effectivement, il y a eu toute une polémique.
Parce qu'il est quand même gonflé. Hein.
Voilà, il y a eu toute une polémique avec James Blunt qui ne souhaite plus que sa chanson soit utilisée pour le générique.
You are beautiful, tu sais.
Mais finalement, il est revenu, il a dit que bon, ça pouvait encore se faire un peu.
Oh, bien payé.
Voilà, ça doit être un peu ça. Je pense qu'il devait être mal payé lui aussi. Donc, voilà.
Bah, apparemment, il a quand même gagné pas mal en 9 ans, hein, grâce à L'amour est dans le pré, donc et cette chanson. Il a gagné beaucoup, donc. Bon, en tout cas, je l'aime pas. Voilà.
Voilà, ça c'est fait.
Voilà,
et
donc, ça c'est dit.
Et donc, ne dérangez pas Anne-Marie, à partir du 16 novembre, elle sera. Toute la soirée ne l'appelait pas.
Voilà. Parce que la saison dure combien, tu sais là ?
Non, je ne sais pas, mais d'accord. Ils sont 6, alors ça ne devrait pas durer très très longtemps.
Par contre, vous pouvez toujours déposer vos sextoys dans sa boîte aux lettres sans la déranger. Hein. Je rappelle que l'appel avait été lancé.
Et que nous n'avons toujours pas de nouvelles.
Ça fait 6 mois qu'Anne-Marie attend.
Pas de nouvelles d'ailleurs de sa banane non plus. Mais
non
bon,
plus.
Bon.
Je vais peut-être aller dormir, moi.
Bon. Et tu nous donnerais quelques nouvelles des séries. Tu sais que j'adore ça.
Oui, voilà. Bon, alors, on va terminer avec 10% parce qu'on vous a dit tout le bien qu'on en pensait.
Qu'on attend impatiemment la seconde saison.
Voilà. Simplement dire que ça a été quand même un très très bon bilan d'audience, largement supérieur à la moyenne. On est à 20% de part de marché sur les 4 ans et plus. Même score sur les ménagères de moins de 50 ans. C'est vraiment, quelque chose d'important pour France 2. C'est vraiment un très très bon bilan. À noter qu'on attend aussi sur France 2 l'arrivée du Broadchurch à la française dans les toutes prochaines semaines. Alors, comme je ne connais pas bien le Broadchurch, je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais voilà, ça sera l'occasion de découvrir aussi cette série. Et alors, donc, pour terminer, ça va faire le lien directement avec toi, Caroline. Je voulais vous parler de Au service de la France. Alors, il ne reste plus qu'une soirée.
Et oui, moi, je viens de découvrir ça avec des espoirs.
Et voilà, mais une série. Donc,
on doit bien trouver un replay quelque part.
Oui, alors, il y a du replay sur les quatre derniers épisodes. Et puis, il y a très, très vite le boîtier, le coffret. Qui sort notamment pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc, Au service de la France, une série dans la veine, clairement, de OSS 117. Une comédie, une comédie d'espionnage, l'année 60, sur un fond d'Algérie, de guerre froide, de décolonisation. Une ambiance vraiment qu'on retrouve dans les OSS 117, vraiment quelque chose qui est assez travaillé, assez réussi. Alors, l'histoire, elle tourne autour d'André Merlot, c'est le bleu, comme on le voit dans le nouveau venu dans cette équipe des agents spéciaux. Alors évidemment, on retrouve une hiérarchie. Alors bon, il se trouve que ce jeune agent finalement se trouve à coucher avec la fille de son patron. Enfin bon, voilà, je vous laisse. On voudrait découvrir tout ça. On a évidemment les agents qui reprennent un certain nombre des mauvais traits de caractère de OSS 117, le racisme, le fait que finalement ils se considèrent aussi hégémoniques en se disant la France est superbe, etc. Sans peut-être avoir un peu de recul. Alors Jean-François Alain qui est le créateur le scénariste de la série, je vais y arriver. Aujourd'hui, il faut deviner les mots, c'est compliqué. répond à une interview en disant avec le producteur Gilles de Verdier, on avait envie de montrer les coulisses des services secrets français. Ce qui m'amusait particulièrement, c'était de décrire ces services secrets comme une administration tatillonne, ringarde, avec en toile de fond un pays sûr de sa suprématie et en réalité ignorant les grands enjeux du moment. J'ai cherché l'imaginaire de mon enfance, et donc notamment les premiers James Bond, pour le plonger dans une ambiance de bureau hiérarchisée, pesante, française, avec donc ses co-scénaristes. Il dit « On a imaginé un service où un vol de trombone serait aussi important qu'une crise à Cuba ». Voilà, donc effectivement, on retrouve ce côté-là qui peut parfois paraître un petit peu, effectivement, pas forcément très valorisant pour les services secrets, mais bon, le but, c'est plutôt d'avoir un programme plutôt divertissant.
C'est sur Arte.
Voilà, c'est sur Arte, oui, effectivement. L'interview lui pose aussi la question de pourquoi l'avoir placé en 1960. Et donc, il répond, la France de 1960 est un pays en partie en ruine, sale. C'est une France toujours ancrée dans le passé. Et en même temps, elle aurait quelque chose de nouveau, le yéyé, Kennedy, mai 68. Et c'est cette idée qu'Alexandre Courtès, le réalisateur, a très bien exploité dans sa mise en scène, notamment à travers le décor du service qui montre ce mélange de désuétude et de modernité. Et donc quand Sophie parle d'être une femme moderne, notamment donc la fille du patron, ça crée un peu aussi le chaos. C'est aussi toute cette histoire-là. Et il y a aussi en fond l'empire colonial qui est en train de s'effondrer pour de bon, le monde en train de changer et ce service qui s'en rend pas compte avec les agents qui sont un peu sur un morceau de banquise qui dérive et qui n'en ont pas conscience.
Voilà. Faut le redire, on l'a déjà dit à ce micro, mais le vintage est à la mode, et comme le vintage n'a pas d'époque...
Tout à fait. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc, sur la plateforme Arte Créative, vous pouvez faire le TSET, c'est le test pour savoir si vous pouvez devenir agent secret. Et puis, donc, sortie prévue donc, le 4 novembre, donc c'est fait déjà, pour le DVD Blu-ray avec une heure de bonus. et la possibilité de découvrir cette série encore donc pour une soirée sur Arte jeudi soir. Et puis donc à noter l'excellente performance de Hugo Becker dans cette série, voilà, avec plein d'autres acteurs qui sont pas forcément très connus, mais qui sont des têtes qu'on connaît un petit peu dans cette ambiance des années 60 et de OSS 117. Voilà.
Eh ben merci Guillaume. Et du coup, on va finir avec quoi ?
On va finir avec un coup de com' raté et avec une petite chanson en hommage à Lucette.
Nous ignorons ce
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Bien, on se retrouve, Caroline.
Eh ben oui. On va pas faire trop de bruit pour pas réveiller Anne-Marie.
Non, mais...
hein. Non, elle est là.
Mais non, il n'y a pas de souci.
T'as intérêt parce que je bon, compte sur votre réactivité.
Tu nous as donné quelques...
Ah bah si c'est du foot, t'as vu, je suis au taquet. Ouais.
Tu nous as donné quelques indices tout à l'heure.
Et oui, alors on peut peut-être écouter un petit
bout
de musique.
Un petit indice musical vraiment, peut-être.
Voilà, un petit indice musical. Alors allez. Là, je pense que plus de secret pour personne.
Tu as donc décidé de nous parler d'un beau gosse ?
Eh ben oui, d'un beau gosse, puisque tu nous as parlé des moches, il fallait faire un peu contrepoids. Alors, du plus beau gosse, dit-on, non ? Se murmure-t-il dans le Landerneau, en tout cas, effectivement. Ce mercredi, pour quelques privilégiés, même mardi soir, le plus célèbre des espions de Sa Majesté, James Bond, est de retour sur les écrans, avec Spectre, la 24e mission au cinéma. L'avant-première avait été célébrée en grande pompe le 26 octobre à Londres, en présence de membres de la famille royale. En effet, le prince William, son épouse Kate et son frère le prince Harry ont assisté au lancement mondial des dernières aventures de l'agent britannique dans le cadre majestueux du Royal Albert Hall. Le film sortait en même temps dans des centaines de salles en Grande-Bretagne et en Irlande. Largement acclamé par la critique, Spectre est dirigé par le réalisateur Sam Mendes. Hein, c'est lui qui a déjà fait, Skyfall la dernière fois, l'avant-dernier opus. Tandis que le légendaire 007 est interprété pour la quatrième fois par le Britannique Daniel Craig, un acteur de 47 ans, après Casino Royale en 2006, Quantum of Solace en 2008 et Skyfall donc en 2012. Donc rapidement, le synopsis de ce nouvel opus. Alors, il est sorti en Lozère cet après-midi. J'avoue que je n'ai pas encore été le voir. Donc c'est un message cryptique surgi du passé qui entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Dembig, le nouveau directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l'existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade Moneypenny et Q de l'aider secrètement à localiser Madeleine Swann. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'elle est interprétée par une jolie Française, la fille de son vieil ennemi, Mr. White, qui pourrait détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne. En s'approchant du cœur de Spectre, Bond va découvrir qu'il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu'il traque. Voilà, alors le film obtient un 3,1 sur 5 sur le site Allociné, avec la plus mauvaise note, une étoile donnée par Télérama, guillemette Audissimo, et la meilleure, 4 étoiles, par Closer, Direct Matin, Voici, Le Dauphiné Libéré, Le Parisien, Métro, Ouest France... et Télérama avec Pierre Murat. Pour Métro, la limite de Spectre, s'il faut chercher la petite bête, c'est d'arriver après Skyfall. Ce 24e opus est définitivement moins profond, moins émouvant, mais définitivement captivant à sa manière, plus glamour, spectaculaire, souriant aussi, sans tomber dans les travers kitsch de l'ère Roger Moore. Pour le Parisien, la tradition est dignement respectée. Gadget stupéfiant, smoking impeccable, Aston Martin volante, mission accomplie pour ce Bond bondissant. Craig est parfait, un tantinet longué. Ouais, le film fait quand même 2h30. C'est le plus long de la série.
Ça, mais... c'est une horreur. Les films trop longs, c'est... Ouais. Vaut mieux
déjà,
une heure...
c'est long, un Bond. Hein,
vaut mieux 1h30 bien réalisé que,
ah, moi, je suis d'accord,
que ouais. 2h30 interminable.
Et donc, pour le Parisien, au bout du compte, très efficace et spectaculaire. On apprécie aussi une certaine autodérision. Alors, il se dit que Sam Mendes, le réalisateur des deux derniers épisodes des aventures de James Bond, a promis que celui-ci serait le dernier de sa carrière. Je pense que j'en ai probablement fini, a-t-il assuré. Il a invoqué notamment sa fatigue et confié ne plus se sentir capable de reprendre ce chemin. Daniel Craig, qui incarne donc le personnage depuis 4 épisodes, pourrait lui aussi endosser ce costume pour la dernière fois, à moins d'un très très gros contrat. On revient à cette histoire de sous qu'on a évoquée aussi pour la télé. Et la liste des prétendants pressentis par la presse est très longue. On a évoqué notamment tenant la corde Damian Lewis, alors c'est Band of Brothers ou Homeland, hein, ce rouquin... qui est né le 11 février 71 à Londres. Damian Lewis est un sujet de Sa Majesté, et en prenant les traits de James Bond, il s'inscrirait parfaitement dans cette lignée de ses prédécesseurs, hein, Sean Connery, originaire d'Écosse, George Lazenby d'Australie, Roger Moore d'Angleterre, Timothy Dalton du Pays de Galles, Pierce Brosnan d'Irlande et Daniel Craig d'Angleterre lui aussi. C'est une des clauses, hein, de la production d'avoir quelqu'un du Commonwealth, en tout cas. L'Australien Hugh Jackman, Wolverine, X-Men, est aussi parmi les favoris. Franchement, je considérerais l'idée très sérieusement, a déclaré le comédien de 46 ans qui a déjà refusé cette proposition une fois quand Pierce Brosnan a passé la main et il s'apprêtait alors à tourner X-Men 2. Il pouvait pas faire les deux choses, malheureusement. Mais je pense que ça lui plairait que la proposition revienne. On parle aussi du Brit.
Il sera peut-être trop vieux.
Et il sera peut-être trop vieux, et puis peut-être que la chance ne passe pas deux fois.
Et puis peut-être remarqué maintenant aussi X-Men.
Oui, aussi,
C'est difficile aussi après d'incarner un personnage quand t'en incarnes déjà un
bien
autre.
Sûr,
quoi.
Bien sûr. Le Britannique Black Idris Elba, acteur, producteur et DJ à 16 heures, hein, il a fait la première partie de Madonna, est également sur les rangs. Un mash-up de la bande-annonce de Spectre, où toutes les apparitions de Daniel Craig ont été remplacées par des scènes avec Idris Elba, tirées de ses précédents rôles, dont en particulier Luther, a même été réalisé et a plutôt été salué par la critique. Voilà, les noms de l'Allemand Michael Fassbender, hein, c'est Steve Jobs, X-Men également, Les Jours du Futur Passé ou encore Cartel, des Britanniques Jason Statham, Fast and Furious, Le Transporteur, de Tom Hardy, Mad Max, Inception, ou encore Kit Harington, Games of Thrones, Pompéi.
Bon, en gros, il y a tous les acteurs.
Je valide.
Tous les acteurs en vogue du moment ont envie d'être James Bond.
Ont tour à tour été évoqués. Voilà. Malgré tout, le producteur Michael Wilson espère toujours. Il verrait bien Daniel Craig rempiler pour un cinquième épisode, malgré tout. Quoi. Voilà. Anne-Marie, une petite préférence ?
Parmi les noms que tu as cités ?
Oui, ou même un que tu nous amènerais ?
Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Le Tatam, là, il est pas mal. Hein. Je sais plus son prénom.
Le Tatam, alors attends que je le retrouve.
Il y avait celui-ci et puis celui du Trône de Fer.
Je suis perdue.
Ah, voilà.
Oui, Transporteur. Jason Statham. Voilà. Transporteur, Fast and Furious.
Lui et puis celui de Game of Thrones.
Kit Harington, alors moi je trouve qu'il colle pas du tout au personnage. Enfin, moi j'ai du mal.
Après, il faut voir ce que ça donne.
Alors,
vous pouvez aller voir sur
internet parce que tous sont photographiés en James Bond, smoking, nœud papillon, pistolet à la main. Enfin,
et mais ça, c'est des photomontages ?
Non, je pense que ça a vraiment été réalisé dans
Ah, d'accord.
Parce que ça a quand même fait le buzz de le fait que Daniel Craig passerait peut-être la main. Et donc, du coup, ça s'est emballé.
Mais en même temps,
c'est un gros coup de com'. Hein,
oui,
pour
c'est aussi une façon de faire un peu augmenter aussi un petit peu après son cachet. Quoi. Il n'est pas fou, le gars.
Tous ne sont pas d'ailleurs bankable de la même façon. Hein,
bien sûr.
Alors, il se dit, et c'est très rigolo, il y a des arguments pour chacun d'ailleurs. Et il se dit, par exemple, pour Damian Lewis, hein, le rouquin de Homeland, que justement, les rouquins ont une résistance plus forte à certaines choses et que ça en ferait un James Bond encore plus invincible. Bon, c'est très rigolo, vous pouvez aller voir ça.
On va sortir une chronique sur les roues.
J'ai pensé à
Julien.
Et j'avoue que je me suis bien amusée en feuilletant tout ça sur Internet parce que les arguments sont assez drôles. Voilà. Alors, ben, je vous sais joueur, alors je vais vous proposer un petit quiz quand même, si vous voulez bien, parce que James Bond, quand même, on connaît tous.
On n'a pas de buzzer.
Plus ou moins. Alors, ben, la question facile, à mon avis, combien d'acteurs ont incarné James Bond ?
5 ou 6, non ?
Moi, justement, j'allais te poser la question tout à l'heure, donc je ne saurais pas.
Alors, de 1962 à 2015, c'est 6 acteurs qui ont interprété James Bond dans la série produite par Eon Productions, dont la règle, donc, je le disais tout à l'heure, imposée par la famille Broccoli, veut que les interprètes du rôle soient issus du Commonwealth. Hein. James Bond a donc été interprété par l'Écossais Sean Connery, l'Australien George Lazenby, on l'a un peu oublié, hein, lui. L'anglais Roger Moore, le gallois Timothy Dalton, l'irlandais Pierce Brosnan et l'anglais de nouveau Daniel Craig. Voilà. Alors on peut ajouter à cette liste Barry Nelson qui a joué dans le téléfilm Casino Royale dans les années 50 et David Niven, l'acteur américain qui avait été pressenti pour le premier opus de la série donc filmé Casino Royale. Et c'était alors le préféré de Ian Fleming, mais il avait le grand défaut d'être américain donc. Hein.
Et celui qui a joué le plus de fois James Bond ?
C'est ma deuxième question, Anne-Marie. Qui détient le record de James Bond ?
J'aurais peut-être dit Pierce Brosnan, non ?
Ouais. Soit Pierce Brosnan, soit Roger Moore.
Ah ouais,
alors, 6 chacun pour Sean Connery et Roger Moore, en fait. Hein. Donc, Sean Connery en 62 dans James Bond 007 contre Dr. No. Et en 63, Bon baiser de Russie, les deux sont réalisés par Terence Young. En 64, Goldfinger, réalisé par Guy Hamilton. En 65, Opération Tonnerre, réalisé par Terence Young. En 67, On ne vit que deux fois, par Lewis Gilbert. En 71, Les diamants ne sont pas éternels, par Guy Hamilton à nouveau. Voilà. Et en 83, Jamais plus jamais, réalisé par Irwin Kirchner. Okay, voilà. Okay. Vous l'avez vu, hein, au démarrage de la série, on avait un opus tous les ans, quasiment. Hein. C'était très fort. Et Roger Moore, Vivre et laisser mourir en 74, L'homme au pistolet d'or en 77, L'espion qui m'aimait, en 79, Moonraker, et en 81, Rien que pour vos yeux, 83, Octopussy, 85, Dangereusement vôtre, où il est opposé à Zorin, un psychopathe joué par Christopher Walken. Voilà. Alors passons à la vie privée de notre héros. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure. Quelle est sa marque de cigarette préférée ?
Oula, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais alors ça...
Alors j'avoue que je me serais fait piéger moi aussi, c'est les Morland Special.
Je vous rappelle que...
Sa boisson préférée ?
C'est pareil. Hein.
Il faut fumer.
Coucou le CSA. Voilà.
Oui, enfin on boit avec modération et on ne fume pas du tout.
Non, exactement.
Voilà, c'est pas bien. Voilà.
Il fume de moins en moins, d'ailleurs. Hein. Oui. On voit l'évolution au fil des années. Alors, sa boisson préférée, et je la partage, c'est le martini secoué, mais pas agité. Dans quel film James Bond se marie-t-il et devient veuf aussi vite ? C'est dans Au service secret de Sa Majesté. Et quelle est donc l'arme à feu de prédilection de 007 ?
En fait, on ne s'est pas entraîné, là. T'aurais dû me le dire. On aurait préparé.
Quand Anne-Marie, elle fait des quiz où elle pose des questions, elle envoie les questions d'avance. On peut répéter un peu.
Donc, c'est un Walter PPK.
Walter PPK.
Voilà. Combien de James Bond girls françaises ?
4 ou 5 ? Plus ?
Tu es loin du compte, Anne-Marie.
9 ? 15 ? Non, bah non.
Je sais pas.
Entre les deux.
11.
12 tout de même, 12. Voilà, exactement, Guillaume, bravo. Alors vous allez voir, c'est un peu rigolo parce que toutes n'ont pas la consonance bien française, mais bon. Donc il y a eu, je vais les prendre par ordre déchronologique si vous permettez, il y a eu Bérénice Marlowe dans Skyfall. Sam Mendes l'a choisie pour être la James Bond girl du 23e épisode. Peu connue en France, cette jeune actrice a fait quelques apparitions dans des séries ou téléfilms, notamment Équipe médicale d'urgence ou RIS. Mais on retient surtout sa réplique scandaleuse pour la pub Dacia. On ne va quand même pas dépenser si peu.
D'accord.
Voilà. Chevelure et yeux bruns lui donnent l'allure d'une beauté italienne à la Monica Bellucci, hein, qui est des héroïnes du dernier opus. Il y a eu aussi Olga Kurylenko, c'est pour ça que je vous dis que c'était un peu difficile peut-être de les identifier, dans Quantum of Solace. De grands yeux verts, une bouche pulpeuse, de belles jambes. Olga Kurylenko a tous les atouts pour une carrière de mannequin, mais elle s'est tournée vers le cinéma et sa carrière ne s'est pas arrêtée dans les bras de James Bond, puisqu'on a vu sa beauté ravageuse dans d'autres productions américaines. Dernièrement, dans To the Wonder de Terrence Malick avec Ben Affleck, Javier Bardem et Rachel Weisz, quand même. Voilà. Mm-hmm. Eva Green dans Casino Royale.
Mais elle est vraiment jolie, Eva Green.
Voilà. Et puis qui peut se vanter d'être la seule femme dont James Bond serait réellement tombé amoureux. Donc c'était quand même une Française. Voilà. Donc si on accepte Diana Rigg, Emma Peel hein, dans Chapeau melon et bottes de cuir, que James Bond épouse donc dans Au service de secret de Sa Majesté, voilà, Casino Royale avec Eva Green est certainement le meilleur épisode de la série. C'est un film de Martin Campbell en 2006. Voilà. Seule une tigresse peut dompter un tigre, dit-on. Sa beauté froide et renversante lui a d'ailleurs permis de faire d'autres productions aux États-Unis, Kingdom of Heaven, Le Monde de Narnia, 300, Rise of an Empire. Voilà. Et récemment, on l'a vue éblouissante dans Sin City, A Dame of Kilfor.
Voilà. Mais elle est vraiment jolie, cette
scène-là. Elle est magnifique, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Sophie Marceau, le monde ne suffit pas. Alors, on ne vous refait pas sa bio, tout le monde la connaît, bien évidemment. La Boum et bien d'autres. Des purges, hein, dirions-nous, avec Anne-Marie, beaucoup. Sa carrière à l'international commence en 1995 avec Brave Heart de Mel Gibson, mais c'est en 1999 qu'elle nous éblouit de sa longue chevelure brune et de son air faussement innocent. Dans Le monde ne suffit pas, face à Pierce Brosnan, Sophie Marceau campe Elektra King, une des James Bond girls les plus vénéneuses de la série.
Vénéneuse, carrément.
Vénéneuse, voilà. Maria Dabo, tuée n'est pas jouée. D'accord, elle est britannique, mais elle a tout de même été enlevée en France et en Suisse et parle donc parfaitement notre langue. Alors, on se permet de la glisser dans ce classement. Ça en fait 12, donc.
Comment faire gonfler les chiffres?
Ah oui, d'accord.
Voilà. En 87, elle incarne la vulnérable violoniste Cara Milovi dans le 15e James Bond, tuée n'est pas jouée. C'est une des seules James Bond qui ne semble pas être une vile croqueuse d'hommes calée sur toutes les questions de physique nucléaire. Voilà. Il y a eu Carole Bouquet quand même, rien que pour vos yeux, en 81. Elle semblait au seuil d'une belle carrière hollywoodienne. Elle était révélée au monde à 24 ans par le rôle de Mélina Havelock, la James Bond girl de Rien que pour vos yeux. Et finalement, sa carrière américaine se résume à une participation à New York Story, film à sketch signé Coppola, Scorsese et Woody Allen en 89. Alors, soit Carole Bouquet a subi la malédiction des James Bond girls, hein, parce que généralement, elles ne font pas une immense carrière derrière, soit elle était vraiment trop belle pour Hollywood. C'est ce qu'on retiendra, nous les Français, chauvins. Voilà, il y a eu Corinne Cléry dans Moonraker en 79.
Là, ça commence à...
Voilà. Ça commence à être un peu vieux. Elle avait été retenue avec trois autres Françaises quand même pour ce film. Catherine Serre, Irka Botchenko et Blanche Ravalek. Voilà. Et c'est habillée d'une nuisette satinée beige qu'elle accueille ici Roger Moore. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, Hugo Drax, joué par Michael Lonsdale, l'a fait dévorer par ses chiens. La pauvre. Il y a eu Irka Botchenko dans Moonraker.
Oui, tu viens de le dire.
Je viens de le dire, pardon, je me suis trompée.
Non, si. Mais elles étaient dans le même, en fait.
Oui, voilà. Et on s'en rappelle surtout pour la scène follement originale des ébats de Roger Moore et Dolly Goodhead dans L'apesanteur de la cabine. Voilà. Et on retient sa chevelure blonde et son corps moulé dans une courte robe blanche. Denise Perrier dans Les diamants sont éternels. Voilà, une apparence juvénile, loin des canons de beauté d'aujourd'hui. Et ce fut la première et la seule Française à être élue Miss Monde. C'était en 1953. Voilà.
Bah alors là.
Et puis Claudine Auger dans Les diamants sont éternels en 1971. Et puis aussi, donc, je vais venir à la dernière en date, Léa Seydoux. Alors, il se dit que c'est la plus belle des French Bond Girls, voire même la plus belle des James Bond Girls. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vois qu'Anne-Marie
pas du
non
tout.
Plus.
Parce voilà. que justement, j'allais dire, c'est l'une des plus fades.
C'est GQ qui nous dit ça. Alors, moi, je ne trouve
peut-être
pas
parce
du
que
tout.
C'est GQ.
Voilà.
Non, mais je la trouve. En fait, elle n'est pas moche pour le coup, c'est sûr, mais elle est fade.
Voilà,
pour moi, c'est une beauté froide.
Elle est inodante comme Audrey Hepburn, mais avec les formes de Rita Hayworth, elle efface tous les mauvais côtés de Spectre. Voilà.
Ah bah, on va demander à un homme.
Bah, oui, moi, elle est très belle, Léa Seydoux, mais bon, pas. Enfin, je pense qu'effectivement, dans les James Bond Girls, c'est pas forcément le.
C'est pas la plus charismatique.
Oui,
c'est pas...
ça. C'est pas forcément. Enfin, c'est pas forcément ce genre de. Enfin, c'est pas forcément ce style-là qui est recherché dans la James Bond Girl, quoi.
C'est rare dans les James Bond, mais pour une fois, le rôle de la blonde et de la brune sont inversés. Et c'est pas forcément celle qu'on croit qui est la plus méchante. Voilà. Donc je rappelle que dans ce dernier, hein, c'est donc Léa Seydoux et Monica Bellucci.
La magnifique.
Voilà. Alors moi, je trouvais qu'elle avait pris un petit coup de vieux. Alors...
Oh bah, t'es gentille, Caroline, parce que tu vieillis pas, toi.
Bah si, si, et au contraire, bon, voilà.
Et bah, au contraire, je trouve ça plutôt positif. Ça veut dire aussi que Monica Bellucci, elle est pas passée voir son chirurgien esthétique.
Alors, hein. C'est vrai. Et alors, elle, du coup, en faisant ce James Bond 24e de la série, elle détient un record. C'est la plus vieille James Bond girl. Elle a 51 ans, Monica Bellucci.
Bah écoute...
Bah oui, c'est pas mal, on est d'accord. Ouais, c'est enfin bon, c'est la remarque que je me suis faite, tu vois, c'est drôle.
Bon, t'es voilà. Impitoyable, hein.
Ouais, complètement. Alors, je vais vous citer parmi d'autres James Bond girls, pas françaises, mais qui méritent d'être citées là. Ursula Andress en 62 dans James Bond contre Dr. No. Jane Seymour en 73 dans Vivre et laisser mourir. Kim Basinger dans Jamais plus jamais en 83. Alberi dans Meurt un autre jour en 2002. Et bien sûr, la présence troublante de Grace Jones en 85 qui jouait le rôle de Médée dans Dangereusement vôtre face à Roger Moore. C'était pas vraiment une James Bond girl, hein, puisque elle faisait l'ennemi de James Bond, mais enfin quand même, c'était une présence très, très remarquée. Alors voilà, pour ce petit tour d'horizon, on pourrait faire une émission complète et tenir une journée complète sur James Bond, bien sûr. Mais je vais vous souhaiter un bon film. Hein, il passe ce soir au Trianon de Mende et au Trianon de Marvejols. Donc voilà, vous pouvez toujours vous précipiter si vous souhaitez le voir rapidement. Et ou attendre un peu si vous êtes patient.
Et on peut peut-être rappeler que les autres James Bond...
sont en replay. Voilà. Les 23 autres sont en replay actuellement sur Plus de France Télévisions.
Ouais, et on peut noter le grand coup qu'a fait France 5 et C'est à vous pour avoir accueilli l'équipe de...
Ouais, tout à fait.
Il y avait Daniel Craig, voilà. Il y avait Léa Seydoux et il y avait... je ne sais plus. Mais ils étaient trois.
Voilà. Et en face, le Grand Journal n'avait réussi à inviter que Cyril Hanouna. Donc voilà, là, on sent aussi un peu la chute de...
Ouais.
On n'a pas parlé des flops de cette rentrée entre Canal+ et Énergie 12 tout à l'heure, mais effectivement, il y a des flops à la télé aussi.
Ah bah là, c'est carrément la chaîne qui fait flop, quoi. C'est même plus des émissions.
Oui.
Bien, alors qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour rester dans ce thème ?
Ah bah, vous savez que en 2012, Adèle avait jailli et puis alors c'était révélé dans Skyfall, hein, une chanson. Et alors on promet un peu la même chose à Sam Smith qui est ravi d'être le nouvel interprète de ce 24e opus. Et qui chante donc Writing on the Wall, un peu du même acabit hein, que.
Oui, je pense que je pense qu'effectivement on est dans quelque chose qui va dépasser le film parce que enfin rien qu'en préparant cette émission les derniers moments on l'écoutait et je pense que c'est.
Oui, mais
ça donne envie de.
Mais je suis pas sûre que enfin Skyfall c'était tellement énorme avec Adèle, je suis pas sûre quand même qu'il puisse rivaliser.
Et puis Spectre a l'air d'être un cran en dessous, donc du coup ça pourrait peut-être faire partir un peu la musique.
Adèle, c'était juste énorme. Ouais. Ce qu'elle a pu chanter, c'était magnifique.
Et je pense que ça a attiré du monde au cinéma, du coup.
On va écouter donc Sam Smith dans cette chanson
du dernier James Bond.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. Prepared for this, I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. I wanna feel love. stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I will be
et lui.
Actuel et lui.
Actu, elle et lui.
Voilà, effectivement, un beau morceau pour
ouais.
ce.
Ouais, je pense qu'on réentendra.
Spectre. Bien, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Voilà, c'est fini pour cet actuel et lui. Vous pouvez bien sûr nous réécouter le jeudi à midi et demi et le mardi à 19h. Vous pouvez également nous réécouter sur 48fm.org. Voilà, et puis ben, on vous souhaite une bonne quinzaine.
Ben oui,
à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Actu, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.